première à le faire en 1727, c'est-à-dire bien avant la Banque d'Angleterre.
On pense à l'été.
France Inter et le Théâtre du Rond-Point présentent Un mage en été de Olivier Cadieu, mise en scène Ludovic Lagarde avec Laurent Poitrenaud.
On s'agrandit comme le cœur qui s'ouvre.
C'est un rêve traversé de paysages inconnus. Une épopée dans le songe d'un homme rêvant d'une femme, bercé par des sons et des images inouïes. Retrouvez Un mage en été du 24 mai au 3 juin au Théâtre du Rond-Point, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, la différence.
15h04, vous retrouvez Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Salut, c'est Sophie à Montréal. Ce soir, pendant presque 2 heures, des casseroles indignées ont résonné dans le parc en bas de chez moi. J'habite dans un quartier habituellement tranquille et qui se met à emboîter le pas à l'effervescence des manifestations étudiantes du centre-ville, comme pour dire à nos ministres qu'on n'est pas parti pour se taire. À Montréal et ailleurs au Québec, j'ai l'impression de voir un peuple sortir enfin de sa torpeur et ça fait beaucoup de bien.
Bonjour, je viens vous parler de ce qui se passe au Québec parce que c'est vraiment horrible. Amorcé par les étudiants il y a 3 mois, il y a un mouvement populaire qui est en train de grossir chaque jour. Mais nous ici, depuis vendredi, on a une loi liberticide qui limite considérablement notre liberté d'association et de manifestation. Hier, nous étions entre 300 et 500 000 à braver cette loi, à faire de la désobéissance civile, à défiler pacifiquement dans les rues de Montréal. Mais dès qu'on est moins nombreux, la répression policière est d'une incroyable sauvagerie. Le gouvernement corrompu semble prêt à tout et au pire. Je pense qu'on va bientôt avoir l'armée ici dans les rues. Donc on a vraiment besoin de vous ici pour témoigner, relayer vraiment ce qui se passe. Pour avoir une idée objective, vous pouvez regarder les images qui sont tournées chaque jour par CUTV, cutvmontréal.ca. Il ne s'agit plus du tout d'une grève étudiante, mais bien d'une lutte populaire. Alors merci de votre intérêt pour notre printemps érable. Merci encore, bye.
Salut Daniel, salut à toute l'équipe. Je voulais réagir à ce qu'a dit hier un de vos auditeurs sur l'émission. En tout début, il a dit que les nouvelles générations passaient tout leur temps sur les ordinateurs, enfermés dans leurs petites chambres et tout, et qu'il ferait bien de s'inspirer un petit peu de tout ça, de tout ce mouvement du Front Populaire, etc. Ce que je voulais lui dire, c'est que moi, je fais partie de cette jeune génération et qu'on lutte. Et ouais, on lutte. Que ce soit le mouvement du CPE, que ce soit contre l'augmentation d'âge de départ à la retraite, tout ça. Et ben ouais, les jeunes, ils étaient là. Et on peut penser que s'ils sont comme ça devant leurs ordinateurs, c'est peut-être pour mieux s'organiser. Allez, ciao.
Merkel n'a pas voulu rencontrer Hollande pendant les présidentielles. Après tout, elle est de droite. Syriza est en campagne, pas d'entrevue avec le président français. Alors, après tout, il est de gauche. Mais c'est peut-être une bonne nouvelle pour les Grecs, et oui. Hollande, candidat non grata, il a été élu. Alors le 17 juin prochain, ça pourrait bien être le tour d'Alexis. Camus disait bien que la dictature était nécessaire au capitalisme pour empêcher ceux qui l'a plongé dans la misère de se révolter. Et si, retour de l'histoire, la Grèce nous donnait une belle leçon de démocratie? C'était Christine du Limousin.
Vous l'avez dit ce matin, Monsieur Cazeneuve. Invité ou pas, vous auriez refusé de recevoir Alexis Tsipras. Avec des masques, en vous pinçant le nez, s'il est élu président, vous ne pourrez plus l'éviter. Merkel refusait de recevoir le candidat Hollande. Hollande refuse de recevoir le candidat Tsipras. Vous avez raison d'avoir peur. Il est beau, il a l'enthousiasme de la jeunesse, il est de la vraie gauche. Il va avoir toutes les difficultés du monde contre lui. Les présidents européens, tous capitalistes, plus l'oligarchie grecque, tous vont lui mettre des bâtons dans les roues. Ce sera David contre Goliath. Mais il a un sacré bouclier, le peuple. Bonne chance, Monsieur Tsipras. Ouvrez-nous la brèche pour un autre monde. Marie-Paul, de Villejuif. Au revoir.
Allô, bonjour, chers AMG et toute l'équipe. Un petit bonjour de la Creuse pour dire que les émissions sur le Front Populaire et la Grèce, bien. Et Daniel, l'Islande, voilà un exemple à prendre. Ce qu'on fait, ce qu'a fait le peuple islandais pour se sortir de la dette. On n'en parle pas souvent dans les médias. Autre chose aussi, j'ai bien aimé la définition de Gérard Filoche. Avec la gauche, on n'a pas tout ce qu'on veut, mais avec la droite, on a tout ce qu'on ne veut pas. Eh ben, amitié à tout le monde et au revoir.
Depuis le départ de Nicolas Sarkozy sous des cieux ensoleillés, la guerre des chefs est déclarée à l'UMP. Pour François Fillon, il n'y a plus de leader naturel à l'UMP et la compétition est donc ouverte. Jean-François Copé a vivement réagi, en appelant à la sagesse de tous et à la mobilisation pour les législatives. Des journalistes complaisants rappellent la phrase sentencieuse et définitive de Copé, assurant que le premier qui sort du bois est mort. Mais sentence pour sentence, il est probable que François Fillon en avait également une en tête, du genre « le premier qui se baigne dans la piscine privée du vendeur d'armes mis en examen via Pakiédine est mort politiquement ».
Ça balance dans le répondeur. De là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, merci. Chers AMG, pour tous ces messages que vous y avez laissés et que nous avons sélectionnés sauvagement. Alors aujourd'hui, on va à Hénin-Beaumont. Ah, ça, ça va devenir comme la gare de Perpignan pour Salvador Dali. Hénin-Beaumont, tout le monde se précipite à Hénin-Beaumont, tout le monde sait où est Hénin-Beaumont, tout le monde sait ce qui va se passer à Hénin-Beaumont. Alors, ça ricane, ça fait le malin, se dit « oh là là, c'est incroyable, le spectacle, etc. » N'empêche que c'est un moment exceptionnel, extraordinaire. On s'intéresse à un enjeu politique, à une confrontation politique, à une castagne politique, comme ailleurs, à d'autres moments, eh ben, on s'intéresse et on se passionne à une castagne de foot, de rugby, de match, de sport, d'un affrontement, d'un duel, d'un conflit. Et là, il se trouve qu'il est, il se trouve qu'il est politique. Alors, il sera évidemment trop médiatisé, il y aura trop de spectacles, il y aura trop. Mais il y a quand même un enjeu. Sans doute que dans l'histoire politique du pays, on trouve d'autres affrontements de ce genre. Je parle pas seulement de l'affrontement Tapie-Le Pen avec ce journaliste qui avait cru devoir faire ça avec des gants de boxe. Vous vous souvenez de cette mise en scène. Mais là, il se passe quand même quelque chose de captivant, de symbolique, qui va très loin. Vous allez voir, on va descendre, c'est le cas de le dire, profond, puisque on va aller dans la mémoire de la mine. C'est une région qu'on connaît bien là-bas, si j'y suis, si vous nous écoutez depuis longtemps, en 90. On avait fait un sujet sur la fin de la dernière descente à Wagny, et puis ensuite sur Métal Europe, et bien souvent on est revenu dans cette région qui est une région de mémoire, qui est une région névralgique et effectivement très abandonnée, qui a beaucoup morflé, la fin de la mine, la désindustrialisation, l'abandon, vraiment là, celui-là caractérisé, physique, visible également, et puis aujourd'hui donc cet affrontement et ce duel politique. Alors évidemment, dans les jours qui viennent, ça va saturer de partout. Aussi y sommes-nous déjà. Enfin, Antoine Chao y a déjà fait un tour, et c'est ce tour à Hénin-Beaumont, front contre front, que nous vous proposons aujourd'hui. Auparavant encore, d'autres messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Salut à tous, auditeurs géniaux et moins géniaux, modestes et moins modestes. J'ai l'honneur de vous annoncer la création d'un nouveau café repère dans la région de Lorient, sur la rive gauche, à Locmiquélic. Je répète, Locmiquélic. Ce premier café repère aura lieu jeudi 24 mai, à partir de 20h30, chez Mame Counifle, route de Port-Louis. Nous y aborderons une notion essentielle, celle d'être bien là où l'on vit. Alors, à tous ceux que ça intéresse, nous vous attendons dès jeudi chez Mame Counifle à partir de 20h30. Merci.
Salut. Le Café Repère de Berdin se lance dans la campagne des législatives. Pour l'occasion, on reçoit des individus bizarres. Des candidats qui arrivent avec un programme farfelu, défendre les libertés individuelles et la vie privée, la légalisation du partage en ligne, pour lutter contre les monopoles privés et le système des brevets. En plus, ils ont un nom étrange, le Parti Pirate. Venez rencontrer ceux qui installent une nouvelle culture politique, celle de l'ère Internet, ceux qui révolutionnent les institutions comme Internet change nos habitudes. Ils ont déjà commencé en Suède et en Allemagne. Et ils sont ce soir à la Brasserie du Chardon, à Berlin, à partir de 20h.
La pêche. Elle avait mangé des sardines quand j'ai tenté de l'embrasser. Je n'ai rien contre la marine, je respecte ce dur métier. Mais enfin, qu'une jolie femme ait une haleine aussi revêche, même si cela n'est pas un drame, peut me faire détester la pêche.
Ça se gâte sur le marché de Beaumont, là.
Ah ouais, tout le monde plie, ça va plier plus vite que prévu. C'est de la grêle en plus.
Mais bon, dans le Pas-de-Calais.
Ce soit du nord au sud des Pays-Bas à la Grèce, mais je pense que le Front National va devenir le premier parti, peut-être, j'espère que non, de France.
Ah ben voilà, coup de tonnerre à Hénin Beaumont.
T'inquiète, Bilout, chez dans le nord, on fait d'abord monter le pression, et après, avec le purée.
Allez, Bilout, monte le son.
Et ça redouble, hein.
Le Nord-Pas-de-Calais va redevenir ce qu'il était avant, quoi.
C'est-à-dire
une terre de plaisir, quoi. Les ch'tis, normalement, c'est pas des racistes. Quand on dit bienvenue chez les ch'tis, Marine, franchement, non, c'est pas possible, ça. C'est impossible. Normalement, ici, c'est des boulis, c'est le café, c'est des gens qui se disent bonjour, c'est des gens qui sont pas racistes, quoi. Hein ?
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, j'y suis avec Antoine Chao, Hénin Beaumont, front contre front. Flight number 2, arriving from
New York. Oh. Ah bah oui, j'étais pas monzé par vous, hein.
Sur le marché, c'est le défilé des candidats. Chacun vient revendiquer son attachement au territoire et au jeu de la proximité, Marine Le Pen semble l'emporter.
Itélé, 21 mai 2012.
J'ai bénéficié... Et j'en suis très ému d'ailleurs et fier d'une adoption, voilà. J'ai été un petit peu adopté.
Pourtant, historiquement, Hénin Beaumont n'est pas frontiste, mais à gauche. 60 ans que les socialistes tiennent la mairie. Mais voilà, le PS est embourbé dans les affaires. Et ce contexte, Jean-Luc Mélenchon a bien l'intention d'en profiter.
Pendant que ces gens se pouillent pour des histoires féodales auxquelles personne ne comprend rien ou ne préfère ne pas comprendre, nous proposons à tous de se rassembler. Et moi, je suis un candidat de confort pour un militant socialiste.
Dans cette bataille médiatique, la droite a bien du mal à exister. Du coup, Modem et UMP ont décidé de faire cause commune.
Moi, je dirais Monsieur Lechon et Madame Mélenchon.
Jean Urbaniak, candidat sans étiquette à Hénin Beaumont.
Parce que ce sont deux étrangers qui sont interchangeables avec des objectifs similaires.
Hénin Beaumont, ce sont surtout 26 000 habitants dont le vote en juin prochain sera scruté par la France entière.
Allez, super, le chauffeur, là ! Cadeau, cadeau, cadeau ! Les gens vivent en réclamant 2,50 et 2 kilos !
Ah, bien sûr, il y aura beaucoup trop de journalistes qui viendront pour dire il y a beaucoup trop de journalistes. Et puis, il y aura de l'accordéon. Bien sûr, il y aura de pompeuses éditorialistes et de ricanants humoristes pour dire que c'est un match de catch, que les extrêmes se rejoignent, que c'est du populisme, combat de coq, combat de chien. Et puis, il y aura de l'accordéon. Bien sûr, on verra le vieux mineur pittoresque est tellement digne. Et le patron de bistrot, si chaleureux, avec son accent ch'ti, qui dira bienvenue chez les ch'tis. Et puis il y aura de l'accordéon. Et puis les sanglots dans le micro. On montrera cette région si pauvre, si abandonnée, et terri et cordon. Et puis il y aura de l'accordéon. Et on se rappellera la fermeture, la dernière descente à Oigny. Et on parlera de Métal Europe et de la désindustrialisation. Et puis le chômage sur un fond gris. Et puis les chiffres du seuil de pauvreté sur un fond pluie avec des petites briques rouges et puis un petit peu d'accordéon. Et puis, on évoquera les barons socialistes, embourbés dans des affaires indéchiffrables. Et puis, On parlera du vieux fief communiste recyclé en fief du FN et de la banalisation du FN. Et puis, on mettra un petit peu d'accordéon. Et puis, on parlera de la montée de l'extrême droite qui panique régulièrement la petite bourgeoisie, intello médiatique, à chaque élection. En fait, le reste du temps, les médias regardent ailleurs. La France d'en bas n'intéresse guère micros et caméras. Il faut des catastrophes, des tempêtes, des tsunamis ou des crimes. Alors, des gros, hein, des odieux, des viols en série, et de la pédophilie. Là, oui, alors on se déplace. Mais là, cette fois, c'est pas outre. Et c'est nouveau. C'est front contre front, front renversé, FG contre FN. Et il se joue là une bataille décisive, symbolique, politique. Et comme dit la dame qui causait dans le poste avant moi, cette journaliste, elle disait 26 000 habitants et les résultats sont regardés par la France entière. Alors nous, on va regarder dès maintenant, avec un petit peu d'accordéon.
Quand les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigts, quand l'homari changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Remarquez même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier. Qu'un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais... Quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de pignou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise, alors la vie, et gentlement, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le potin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigts, quand l'homard, il changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG.
Super efficace là. Ouais. Tout le monde a déjà un tract. Bonjour madame. Les écolos, Marine Tondelier. Vous n'allez pas vous tromper de Marine.
Bon, ça m'étonnerait.
Merci madame, à bientôt.
Alors on est dans un bistrot là, c'est au marché des Nimbeaumont, hein. C'est mardi le marché, le mardi et le vendredi.
Le mardi
ici.
Et vendredi, oui.
Donc là il y a Noël, ma mère, qui est dans ce petit bistrot en train de boire un café et qui est venue soutenir. Bonjour, enchanté.
Voilà, on a un petit tract.
Voilà, d'accord. Très bien.
Donc, on avait
donc,
mis tout un passage sur,
Marine Tondelier,
voilà. On avait mis tout un passage sur retrouver la stabilité politique, la sérénité dans la vie politique locale, mais c'est imprimé avant que Jean-Luc Mélenchon arrive. Donc,
donc c'est l'événement c'est hein, de la semaine, hein, c'est ça ouais.
Bah, de la semaine et de la campagne, hein, c'est un peu la surprise pour tout le monde.
Alors du coup, vous avez appelé...
Alors, Noël, ma mère voilà. Était prévue depuis longtemps. Hein. Faut pas croire que je redimensionne toute ma campagne depuis qu'on a appris ça. Moi, ma campagne, elle a commencé il y a 3 mois. Noël, ma mère, c'était prévu. On a un meeting le 31 mai qui est prévu depuis longtemps. Donc ça continue, sereinement. Et on garde notre ligne.
Alors qu'est-ce que ça change pour vous?
Bah rien. Ça change absolument rien. Nous, on est là pour défendre les valeurs écolo. Donc on va pas s'adapter le message à nos concurrents. Moi, j'ai toujours dit que Jean-Luc Mélenchon était le bienvenu à Hénin, comme tout le monde est bienvenu, parce qu'on est une terre d'accueil. Puis deuxièmement, tout ce qui nous aide ici à battre Marine Le Pen est le bienvenu. Mais après, on a quand même besoin de quelqu'un qui connaisse vraiment les problèmes locaux, de quelqu'un qui s'en occupe une fois qu'il sera élu, qui ou elle sera élu d'ailleurs. On a besoin d'un député qui défende cette circonscription, qui en a tant besoin. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a besoin aussi d'ici de retrouver le calme, la sérénité dans une ville qui subit l'agitation politique et médiatique depuis des années. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas sûre que la stratégie front contre front soit la plus intelligente. Donc à voir comment il mènera sa campagne. Moi, j'ai entendu à sa conférence de presse qu'il n'était pas là pour mener une bataille de chiens, etc. Donc on verra s'il respecte ses engagements et si tout se passe dans le calme. J'espère que le marché ne deviendra pas une guerre de tranchées. Voilà.
Mais le fait que le Front National s'approprie ces terres, on parle des terres de Marine Le Pen ici.
C'est scandaleux. Alors, j'ai des gens sur le marché qui sont venus me dire qu'ils avaient été demandés à la mairie s'il avait vraiment des terres ici. Donc ils ont vérifié, elle n'a aucune terre ici. Et ce n'est pas son fief, c'est le fief de ses habitants, Hélène Beaumont. C'est le fief de personne, pas de moi, pas de Philippe Kemel, pas de Jean-Luc Mélenchon. Donc je ne vois pas pourquoi tout d'un coup ce serait le fief de Marine Le Pen, qui a été élue en 2009, je le rappelle, et qui a démissionné. Elle a dû choisir entre ses mandats, elle a démissionné. Donc quand on a la chance d'être élu dans une ville où on est venu en disant la main sur le cœur, qu'on était là pour défendre les habitants, etc., et qu'on on démissionne parce qu'on préfère gagner l'argent du Parlement européen où on ne fout jamais les pieds, sauf pour faire une esclandre médiatique de temps en temps, 373e sur 376 en taux de présence au Parlement européen et zéro amendement déposé depuis 2004, Marine Le Pen. Donc voilà, si c'est ça qu'elle préfère, tant mieux pour elle, mais qu'elle ne vienne pas nous bassiner avec son fief d'Hélène Beaumont.
Alors Marine Tondelier, quels sont les problèmes majeurs dans cette région, dans cette circonscription?
Il y en a beaucoup. Donc, si je parle de la circonscription, on a au niveau du taux de chômage, de la santé, des taux d'équipement, du retard scolaire, on est dans le rouge sur tous les indicateurs. Je vous prendrai le sujet que je connais le mieux parce que je travaille dessus, la santé. 67% de surmortalité par rapport à la moyenne nationale. Et c'est pas parce que c'est pas juste de la faute des gens, parce que j'entends dire oui, ils mangent des frites, etc. C'est pas ça. Le problème, c'est Metal Europe qui a pollué. Il y a beaucoup de sites Céveso, 13% des sites les plus polluants de France sont autour d'un moment dans le bassin minier. Parce qu'il a fallu garder des entreprises, les attirer. Le résultat aujourd'hui, c'est que la Terre est malade, la planète est malade et les habitants sont malades. Donc voilà, ça c'est un sujet parmi d'autres, mais sur tous les sujets, on est dans le rouge. Donc nous, on a des solutions écolo d'avenir, c'est-à-dire que les modèles passés sont éprouvés, ils ont été valables à un moment, mais là, on arrive au bout de la logique. Et nous, aujourd'hui, les solutions d'avenir, on est les seuls à les porter. Voilà.
Il est demandé que tu aies pour la prochaine.
Merci, chère madame. Bonjour, madame. Vous connaissez Marine Tondelier?
Les écolos. Marine Tondelier.
Les législatives.
Au concours.
Bonjour, ça va bien?
Tout se passe bien?
Très bien.
Voilà, c'est notre jeune candidate écologiste.
Marine. Solidarité pour qu'il y ait des femmes et des jeunes à l'Assemblée nationale. Hein. Solidarité féminine.
Voilà, c'est Antoine Chaud, il n'a rien compris. On lui dit tu vas voir Marine. À Hénin Beaumont, il est tombé sur Marine, mais c'est l'autre, c'est Marine Tondelier, cette jeune femme. Elle est, vous avez compris, elle est candidate pour les Verts. Il y a Noël Mamère qui est venu lui donner un coup de main. Vous avez vu, à toute vitesse, ça fait, ce qu'on vient d'entendre là, ça fait 4 minutes 12. Elle en a dit des choses. Elle en a dit des choses, cette femme-là, sur la région, sur la pollution, sur Metal Europe, on avait fait des suites de reportages, sur la mortalité, sur etc. Elle informe assez vite. Je ne sais pas si elle a un mari, si elle a un chien, la taille de sa maison, si elle fait du ski. Mais voilà, elle fait de la politique. Et c'est pas non plus de la com avec... vous savez, on a fait une série qui s'appelait avec Pascal Pascariel-Loul, la com, ce monstre doux. Non, ça c'est de la politique. Elle va... Voilà, elle fait son numéro, elle vend son histoire. Mais il y a de l'info. C'est intéressant quand c'est comme ça, quand même. Et il ne faut pas louper, parce que c'est pas souvent que ça nous arrive d'entendre ça localement et de pouvoir parler sur le marché avec des gens qui se présentent ainsi. Profitons-en, ce sera bien court. Voilà un autre personnage rencontré sur le marché d'Hénin Beaumont.
Alors vous, vous êtes en Mélenchon?
Ah bah, comme beaucoup de gens, je crois.
Vous êtes commerçant ici, hein, ouais, c'est ça, au marché, ouais. Ouais, et vous vendez?
Moi, je vends du cosmétique.
Cosmétique,
ouais. Et moi, j'habite à Courcelles-lens. Et de toute façon, je suis très content que M. Mélenchon y arrive. J'ai voté pour lui de façon présidentielle et je voterai pour lui de toute façon aux législatives. Enfin, quelqu'un qui est capable de se dire, voilà, je vais l'affronter. C'est bien, moi, je trouve ça bien. Je pense que le Front National, c'est pas une bonne solution pour les gens. Parce que, elle, c'est la bourgeoise qui endort les pauvres. Et là, c'est... Je vais pas dire que c'est la même société, mais c'est quelqu'un qui défend les gens. Parce que là, c'est quelqu'un qui va défendre le peuple, et tandis qu'elle, c'est quelqu'un qui met les gens contre les gens. Vous voyez, c'est toujours la faute de l'immigré, c'est toujours la faute de celui qui prend le travail des autres. Tandis que M. Mélenchon, il va défendre tout le monde. La différence, elle est là, et je pense qu'il y a des gens du Front National qui vont s'apercevoir qu'en fait, il y a mieux qu'elle. Vous savez, quand on change de crèmerie,
on s'aperçoit en fait que ailleurs le fromage est aussi bon. C'est parce que pour l'instant il n'y avait qu'elle. Mais quand ils vont trouver en face d'eux quelqu'un qui a des bonnes idées, qui a savoir parler sans pour autant mettre la faute sur l'un ou sur l'autre, ils vont s'apercevoir en fait qu'ils ont fait une erreur. La politique d'aujourd'hui, c'est la politique de demain. Et demain, c'est qui? C'est les enfants. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Une terre du Front National? Chez moi, on a 8 à voter. Et de toute façon, les 8, on va voter M. Mélenchon, qui ne s'inquiète pas. Il ne faut pas croire. Ce n'est pas parce que Marine Le Pen, elle, soit 10 ans, c'est sa terre d'accueil ici. C'est comme un combat. Pour l'instant, elle gagne des points. Mais elle peut perdre. Et elle va perdre. Les gens ne sont pas cons. Donnez-leur un peu de travail, un peu d'espoir. Et ils oublieront, en fait, le racisme. Ils oublieront, en fait, que c'est Marine Le Pen qui va les diriger, parce qu'en plus, madame, faut pas oublier, je pense que beaucoup de gens qui votent pour Marine Le Pen ne savent pas que Marine Le Pen, elle a habité, grandi dans un château. Et les gens ici, ils habitent dans des maisons des mines. Donc voilà quoi. Je pense qu'aujourd'hui, il faut. C'est un film quoi, c'est une fiction en fait, hein, quelque part. C'est comme si le méchant allait défendre les gens. C'est la charité qui se fout de l'hôpital quoi, vous voyez un petit peu. Mais je pense que c'est juste un passage, hein, tout simplement.
Et vous, ça fait longtemps que vous votez à gauche ?
Ouais, j'ai toujours voté à gauche en fait. Moi, je suis de génération Mitterrand. C'est vrai que la gauche, elle a un petit peu déconné, il faut le reconnaître, quoi, au niveau de l'intégration. Elle a pas assez mis les gens issus de l'immigration en avant, quoi, politiquement, dans des positions responsables et tout, quoi. Et après, bon, je pense que la gauche, j'espère qu'elle va se rattraper là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, le problème, c'est pas le racisme. Les gens sont pas racistes, hein, faut pas croire. Hein. Les gens sont désespérés et pensent que gauche et droite, c'est la même chose, donc ils votent Front National. Donc aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui peut, comme M. Mélenchon, avec le cran qu'il a, les ramener à la raison, le Nord-Pas-de-Calais va redevenir ce qu'il était avant, quoi.
C'est-à-dire
ben, une terre de plaisir, quoi. Les ch'tis, normalement, c'est pas des racistes. Quand on dit bienvenue chez les ch'tis, Marine, franchement, non, c'est pas possible, ça. C'est impossible. Normalement, ici, c'est des boulistes, c'est le café, c'est des gens qui se disent bonjour, c'est des gens qui sont pas racistes, quoi. Ici, c'est, on dit que le Nord-Pas-de-Calais, il fait peut-être froid au niveau du temps, mais les gens, ils sont en cœur chaud, quoi. Bon, donc, mais c'est vrai que depuis un certain temps, depuis que Marine allait là, c'est vrai que c'est plus la même solution, quoi. Les gens, quand ils parlent du Nord-Pas-de-Calais, ils disent que c'est le Front National, quoi. On assimile tout le monde maintenant au Front National. Moi, quand je vais sur Paris à la marchandise, ah, on dit le Nord, les racistes, voilà. Et c'est pas une bonne étiquette, quoi. C'est quand même dommage. Hein.
Votre prénom, c'est ?
Moi, je m'appelle Mohamed. Et je suis pour M. Mélenchon. Je suis issu d'immigration, mais moi, je suis né ici. Donc, voilà, quoi.
Avec la mer du Nord. Dernier terrain,
eh ouais Michel,
ouais qu'est-ce que tu
dis, bah dis rien, ferme ta gueule.
Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes de béton remplies de tags, ces châteaux de sable en ruine que la marée dépasse et qui laissent à jamais le cœur de nos mers à marée basse. Avec ses tours immenses élevées jusqu'aux cieux, ces tours dans lesquelles s'entassent tout bas Brunois et Rebeux, avec Chepralède qui répond petit quinquin, ça flaire bon la France d'en bas dans le pays vertical qui est le mien. L'ascenseur est en panne, les pauvres restent à leur place dans la mélasse pendant que Sarko et Co dans leur tour d'ivoire se prélassent. C'est quand les vacances qu'on puisse prendre le large, cet été les enfants promis, je les emmène tous à Roubaix Plage. Si t'es tôt demain coin, te sors de quoi je te cause. Ici c'est pas tous les jours dimanche, c'est pas la vie en rose. Je veux du soleil, je veux du soleil à mon réveil. Ici Caïdrage c'est gris, c'est triste, c'est la merde Michel.
Du nord de l'Hexagone on te ramène à son chambert, la mauvaise herbe, la graine de réfractaire. Fils de l'Algérien, enfant du plein pays. Et ouais ma gros, les bronzés font du ch'ti. Du nord de l'Hexagone on te ramène à son chambert, la mauvaise herbe, la graine de réfractaire. Fils de l'Algérien, enfant du plein pays. Et ouais ma gros, les bronzés font du ch'ti.
On donne ça pour les choppers et les tchotmers. On chaque terre pour nos blédards et nos chabers. Pour les ro, les pechos, les chibani de Roubaix à Alger. On dégaine, hey baby, c'est du sang de prolo qui vient du caniveau. Vas-y, télécharge si t'as pas d'euros. Chabi Connexion, on occupe le terrain. Citoyen de ch'monde, partout chez ma coin. Tu veux savoir ce que je pense de leur régionalisme? Il est aussi puant que leur nationalisme, aussi flagrant que leur racisme et leur xénophobie, aussi gerbant que Martine et Sarkozy. Tout le monde s'émeut pour une insulte sur une banderole. Pour un cimetière profané, on s'en bat la guibole. Je vais pas te faire le couplet fier d'être ch'ti. Je laisse le folklore à Pernod et Camini.
Du nord de l'Hexagone, on te ramène à son chambert. La mauvaise herbe, la graine de réfractaire. Fils de l'Algérien, enfant du plein pays. Et ouais, ma gros, les bronzés font du ch'ti.
Quand tu trouves quelqu'un qui est. Il est bien avec eux.
On est pour France Inter, voilà, on fait la campagne ici, on suit la campagne.
D'accord. Radio Bolcho.
Ah ben voilà. C'est ça. Radio Bolcho, enfin, Radio France.
C'est donc Radio Bolcho. Tout le monde le sait, non?
Bah non, si, moi je suis pas bolchevique, je suis désolé.
Non, mais vous non, mais
bah, votre vous, station, êtes quoi, oui. Vous êtes quoi, vous
votre station, oui.
Bonjour monsieur, vous en pensez quoi, vous, alors, des prochaines élections?
Bon, moi je suis pour Marine.
Ah bon? Ouais.
Je suis pour bon Mélenchon, je l'aime pas du tout.
Ah oui, pourquoi? Alors, non, qu'est-ce qu'elle a de mieux, Marine, alors?
Marine, longtemps qu'elle a une. Il y a un moment qu'elle vient.
Ah oui.
Mélenchon, ça y est, il n'a pas passé au présidentiel, il a emmerdé le monde à Ina.
Ah, vous, ah, il vient vous emmerder ici?
Oh, bah, qu'est-ce qu'il vient faire? Faut que ce soit un fou à Ina.
Ouais.
Il vient ici, il se réveille un peu trop tard.
Ah ouais. Alors, bah, elle s'est réveillée plus tôt, Marine Le Pen,
bah,
c'est
bah,
ça?
Oui, puis moi, je crucifie plus lui, puis elle, moi, je dis les vérités. Pas comme lui dit ce qu'il veut, mais...
Mais elle est donnée perdante, là, face à lui, là.
Mais non, je vais remporter, vous pouvez. Mélenchon a une grande gueule, et puis c'est tout. Quoi.
Bon, mais on rencontrera d'autres, hein, rassurez-vous, des électeurs du Front National, et des militants du Front National, à un moment, et il y en a d'autres. Au passage, je note que, concernant... Radio Bolchevique, Alexandre Adler, l'éminent chroniqueur que vous connaissez, éditorialiste prestigieux, considérait qu'effectivement, là-bas, si j'y suis, c'était une émission brejnevienne, il avait dit. Bon, passons, puisqu'on est à un beau mot et qu'on essaye un peu de comprendre ce qui se passe dans cet endroit névralgique. Et voilà une rencontre avec Raphaël Luc. Écoutez bien.
Ça se gâte sur le marché de Nimbomont, là.
Écolo, Marine Tondelier.
Ah ouais, tout le monde plie, ça va plier plus vite que prévu. C'est de la grêle en plus.
Hein. Ah, moi dans le Pas-de-Calais.
Ah, c'est une belle vrache qui tombe là. Hein. Vous êtes d'ici?
Ben, on est tout près, là, à Noyelles-sous-Lens.
Ah ben voilà, coup de tonnerre à Nimbomont.
Les écolos arrivent.
Le coup de tonnerre, c'est quand même plutôt l'arrivée de Mélenchon en cette campagne, non, législative ici.
Oui, il y a quelques semaines, on s'y attendait pas, vraiment.
Même pas du tout, non?
Non. Oh bah non, on s'y attendait pas vraiment, non.
Et ça redouble, hein.
Et puis au mois de juin, moi je suis tout à fait de l'association Bassin Minier UNESCO pour faire d'inscrire le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais au patrimoine mondial. Et donc on arrive au bout. Ça nous aura demandé 9 ans. Et la décision finale, qui doit être favorable selon tous les pronostics, doit intervenir à Saint-Pétersbourg fin juin. Et donc le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais sera inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Oui, c'est quoi? C'est la mémoire ouvrière? C'est quoi la...
Il y a les deux aspects. Il y a le patrimoine industriel, dont une partie a été conservée, grâce entre autres à l'obstination d'un certain nombre d'élus et surtout d'un certain nombre d'anciens mineurs et accompagnés par des mouvements associatifs, et la mémoire ouvrière proprement dite, hein, sur laquelle on a, les uns et les autres avons fait beaucoup de gros travaux d'enregistrement et de publication de mémoire de mineurs et de leurs familles, une valorisation de ce qu'a été l'histoire du charbon depuis deux siècles jusqu'en 1990 dans le bassin minier des Nord-Pas-de-Calais. Quoi.
Et cette mémoire ouvrière, justement, c'est un peu là que le bas blesse quand Marine Le Pen parle de ses terres et de son fief, non?
Mais ça, c'est une formulation qui est arrivée là, je ne sais comment exactement, parce que bon, elle n'a jamais, hein, elle n'est même plus élue.
Non, mais même le Front National, au-delà de Marine Le Pen.
Ce qui est un fait, bon, c'est comme partout, hein, le Front National a progressé en partie sur un fond de vote ouvrier, revendicatif et dégoûté de tout, quoi, hein, à un moment donné. Et comme ici, il s'est trouvé une équipe de militants du Front National qui ont travaillé le terrain, comme on dit, hein, depuis des années, ben, évidemment, ça aboutit à un vote Front National et qui a grignoté petit à petit la situation politique locale, aidé par la dégénérescence du Parti Socialiste, en particulier à Nimbomont, quoi, hein, à travers des affaires qui ne sont pas élucidées encore complètement, mais qui ont conduit quand même l'avant-dernier maire en prison. Quoi, hein. Donc c'est un terrain, évidemment, ça a été un point d'appui pour le Front National ici. Quoi, hein.
Et le PC, alors il n'a pas fait le boulot, quoi? Depuis quand il ne fait plus le boulot, quoi? De s'occuper des ouvriers, des classes populaires.
Le PC, c'est comme partout. Il garde quelques villes, quelques bastions et quelques députés, en particulier dans le Douaisy, dans le Valenciennois. Mais ici, dans le Pas-de-Calais, petit à petit, le PC a reculé comme partout ailleurs, quoi. Et...
Avec la désindustrialisation aussi.
Alors, il reste encore quelques villes fortes. Et à chaque élection municipale, bon, il se fait grignoter, quoi. Bon, et ben, il retrouve une certaine jeunesse à travers le Front de Gauche et avec Mélenchon, là. Hein, et donc, ça a dynamisé les troupes, là. Mais bon...
On est quand même dans un des berceaux du mouvement ouvrier, ici.
Absolument.
C'est ça que c'est très symbolique.
Si on reconstituait, depuis la fin du 19e siècle, les avancées sociales pour lesquelles le mouvement des mineurs a été précurseur... Hein, et ben vous savez, ça fait une sacrée liste, hein, une sacrée liste de conquêtes sociales qui sont dues primitivement par l'engagement de la classe ouvrière minière. Ça, c'est vraiment important.
Gratuit aujourd'hui, allez-y, on va tout donner gratuit aujourd'hui. Le pirate, il est là.
Moi, je suis Raphaël Luc, d'ascendance espagnole. Mon père qui est arrivé au moment de la guerre d'Espagne. Il n'était pas mineur, il était plâtrier. Mais...
Et vous êtes militant écolo depuis longtemps?
Depuis 1997.
Il y a du boulot ici?
C'est pas une terre très, très, très favorable à l'écologie politique. Hein. Bon, il y a une tradition ouvrière socialo-communiste qui est ancestrale. Et donc la place de l'écologie politique a du mal à se faire. Hein. Mais ma foi, les idées progressent, avancent. Hein. Et on a un leader local dans le bassin minier qui est Jean-François Caron, qui est maire de Los Angoël. Los Angoël qui est devenu une ville pilote en matière de développement durable, qui nous fait progresser, quoi, et qui nous donne un exemple, et à tous, pas seulement aux écolos, de ce qu'il est possible de faire en liant le local et le global, comme on dit. Hein. Et ça, c'est très important, très exaltant.
Jean-Luc Mélenchon s'est clairement positionné avec un programme d'écologie politique. Vous en pensez quoi de son programme d'écologie politique?
C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, comme le Parti communiste, comme le Front de Gauche, ont évolué en particulier parce que Martine Billard, qui est députée verte à Paris, hein, a rallié le Front de Gauche et a beaucoup influencé. Hein, ce qui fait que la parole de Jean-Luc Mélenchon a beaucoup évolué au cours de sa propre campagne présidentielle. Et ma foi, bon, disons que les idées avancent aussi à ce niveau-là.
Jour et nuit, tandis qu'ils sont tout au fond du puits, nuit et jour, là-haut, nous attendons leur retour sur leur front. Noirci par la sueur et le charbon, les étés jamais n'ont le temps de s'arrêter. Les gueules noires savent qu'il faut passer la vie sur le carreau. Au fond de la mine, bien souvent,
qu'est-ce qui se prépare là bientôt?
C'est la commémoration de la grève des mineurs de mai-juin 41, hein, qui a été la première manifestation de résistance en fait à l'interne. Et donc l'association présidée par Marcel Barois, qui est un leader historique du mouvement ouvrier syndical, CGT à l'époque, il y avait 20 ans, hein, a œuvré pendant plus de 15 ans pour faire reconnaître ce mouvement de grève qui était complètement méconnu, non seulement par les historiens officiels, mais par toute une partie de la population, et qui a préservé l'existence et la survie de la maison syndicale des mineurs de Lens, hein, qui est la seule maison syndicale des mineurs avec Montceau-les-Mines, et qui devient une maison de la mémoire ouvrière, la mémoire ouvrière minière.
Le contenu est différent.
Une mémoire enfouie, peu connue, localement, mais juste un peu comme ça, voilà. Et soudain, cette bataille des Nains-Beaumont, ce front contre front des Nains-Beaumont, donne l'occasion de revenir et de faire connaître tout simplement cette culture ouvrière, cette mémoire des luttes. On a consacré l'an passé, à peu près à la même époque, une série d'émissions sur les grèves de 1948. Il y a eu aussi, on l'avait évoqué bien sûr, des grèves des mineurs du Pas-de-Calais en 1941, alors que les Allemands, les armées allemandes envahissaient le pays du 27 mai au 9 juin 1941, eurent lieu dans l'endroit où nous sommes des résistances tout à fait héroïques, tout à fait remarquables et peu connues de l'ensemble du pays. Qui connaît Émilienne Mopti, par exemple? Émilienne Mopti, c'était une femme de mineur durant la grève. Elle a pris la tête des manifestations de femmes à Hénin-Liétard, on disait Hénin-Liétard avant Hénin-Beaumont, le 29 mai et le 4 juin. Et elle entre dans la clandestinité au sein du groupe Charles de Barge. Elle est arrêtée au cours d'une mission par la Gestapo et elle est décapitée à Cologne le 18 janvier 1943. C'est, voilà, ce genre de figure, localement, peut-être un peu connue, mais qui mérite évidemment d'être connue nationalement. Et bien voilà, le 3 juin, Mélenchon prendra la tête d'une marche Émilienne Mopti sur les pas de cette femme et des femmes des mineurs de 1941. Ça n'est pas la seule manifestation et une occasion d'entrer dans cette mémoire des luttes.
Voilà, à Lens, la maison syndicale.
Salut Serge.
Enchanté. Alors on est où ici, dis-moi ?
Au siège de la maison syndicale des mineurs du Nord-Pas-de-Calais, CGT. Cette maison a été construite derrière la catastrophe de Courrières, 1906, mouvement populaire qui monte. C'est le début de la Révolution et on va demander à Casimir Beunier, qui est délégué mineur, dont la statue est sous la verrière, de collecter l'argent nécessaire à la construction de cette maison. Pour faire face aux compagnies minières, d'avoir un siège digne de ce nom et qui représente les mineurs. Quoi.
Ah, ça a été complètement restauré, voilà. C'est splendide.
Alors cette maison a fini de vivre, entre parenthèses, avec la fin du bassin minier, puisqu'en 90, on ferme le bassin. Quoi. Donc le mouvement syndical des mineurs s'adapte et va basculer en mouvement syndical des mineurs en retraités, non plus actifs. Le mot actif disparaît, quoi. On va continuer à gérer nos amis retraités hein, et femmes de mineurs. Hein. Il reste encore 70 000 affiliés dans le bassin minier hein, de Nord-Pas-de-Calais. Il reste encore 15 000 ici décosés. Quoi, hein. On va se doter tout de suite, dès 90, d'une association qui s'appellera l'association Mai-Juin 41 pour faire valoir la reconnaissance de comme grève patriotique de ces grèves de 41 qui seront reconnues en 2002 sous le gouvernement de Jospin. On va attendre 60 ans pour avoir cette reconnaissance. Hein, et de cette association Mai-Juin 41 naîtra en 94 Mémoire et Culture. Alors, Mémoire avec un S, Culture avec un S, puisque Mémoire et Culture des mineurs et de ces populations. Bon, j'en suis le secrétaire et vice-président. Et à travers notre association, nous faisons vivre toute une palette, une série d'événements qui touchent à la corporation, transmettre cette mémoire. Nous allons, tant bien que mal, dans les écoles, expliquer aux enfants ce que c'est que du charbon, Il y a un fil qui est coupé, il faut le renouer. Faut expliquer aux enfants que s'ils vivent dans des maisons tout alignées, avant c'était les maisons des mineurs, c'était les corons. C'est quoi un terri, c'est quoi des luttes, c'est pourquoi ils ont tous ces acquis aujourd'hui. Ben c'est grâce également à l'action de leur père, grand-père, arrière-grand-père pour certains.
Et vous-même, Serge Barrois, vous êtes aussi dépositaire de la mémoire de votre père, Marcel, qui a fait partie de toutes ces luttes.
Un grand mot, hein.
Qu'on ne va pas pouvoir rencontrer aujourd'hui parce qu'il a des petits problèmes de santé, mais Charlotte Perry l'avait rencontré il y a un an quand elle était venue ici pour faire un travail sur la grève de 48, qui sont d'autres grèves très importantes du mouvement ouvrier ici dans le bassin minier.
Monsieur Barrois Marcel, j'étais secrétaire de la région mineure, quoi, des syndicats des mineurs. J'ai traversé une partie de l'histoire.
Vous aviez participé à cette grève en 41?
Ah oui, c'est ma première grève. Ouais. Pas la moindre, celle au Puy-Dôme et à Montigny-en-Gouëlle. Durant la résistance en 1941. Oui, j'étais encore jeune. Hein. J'étais mineur à la fosse 7 de Barlin, près de Bruet. Tant qu'on n'avait pas l'âge, on n'avait pas le droit d'aller au charbon. Mais moi, j'ai descendu, j'étais au fond très, très vite. Cette époque-là, je vous dis, moi, j'étais tout jeune. J'ai 85 ans aujourd'hui. Hein. Donc, on était occupés. 41... C'était un mouvement d'ampleur régionale extraordinaire. Tous les mineurs ont fait grève. Une grève qui s'est succédée dans le temps, un peu, dans les jours, quoi. Parce qu'on était sous l'occupation militaire. Le Nord-Pas-de-Calais était en ce qu'on appelait la zone interdite. Il y avait les soldats, il y avait tout, il y avait l'armée. Hein. C'était une grève très, très, très puissante. Parce que non seulement les mineurs, mais autour des mineurs. De nombreuses entreprises ont fait grève avec eux. Puis ensuite, toute la population minière était mobilisée. Les femmes en particulier ont joué un rôle considérable dans le mouvement, quoi. Il y a eu des manifestations de femmes très importantes dans tout le bassin du Nord-Pas-de-Calais, dont la principale à Billy Montigny, sous la répression des Allemands, quoi, l'armée allemande. Les Allemands ont arrêté près de 500 dirigeants des mineurs. 240 ont été déportés à Sachsenhausen. C'était les premiers convois de déportés en France pendant la guerre. C'était les mineurs du Nord-Pas-de-Calais. Et puis d'autres ont été emprisonnés, torturés, fusillés au fort du Vergalan à Vambrochy, à la citadelle de Lille et à Arras, les principaux dirigeants. En définitive, cette grève a alimenté un puissant mouvement, le développement d'un puissant mouvement de résistance, quoi. Très important. Ensuite, il y a eu la répression contre les grévistes, mais les Allemands ont tenu compte des doléances qui étaient présentées, des revendications, et donc ont donné satisfaction à un certain nombre de revendications, en particulier des ravitaillements. Parce qu'à l'époque, la France, mais notre région en particulier, était pillée littéralement par les occupants, quoi. Après la grève, c'était la résistance armée, quoi. On est passé à une autre phase de la résistance, pas seulement dans le Nord-Pas-de-Calais, en France, quoi.
Alain Durand, enseignant retraité. Alors, cette grève, déjà, il y a eu des mouvements de grève, hein, qu'on appelait des grèves perlées, mais devant la montée des revendications, des manifestations pour le ravitaillement, le Parti communiste clandestin s'appuyant sur des syndicats clandestins, on appelait ça des CUSA, hein, qui, en sous-main, en quelque sorte, préparent le mouvement. Il était logique aussi, ce mouvement, parce qu'il faut rappeler ici une chose, c'est que si le 11 novembre 1940, les étudiants manifestent en France, un tiers des mineurs ici refusent de descendre. Spontanément, par patriotisme, en 1940, un tiers des mineurs n'est pas descendu. Donc j'essaie de vous montrer, en quelque sorte, que le terreau était déjà fertile, en quelque sorte, puisque dans ce parti communiste clandestin aussi, il y a d'anciens brigadistes, comme Lecoeur, comme Appiot. Hein, la guerre d'Espagne, ici, a eu aussi son importance. Donc nous sommes ici dans une terre où il y a à la fois de l'anglophilie, il faut bien le dire. Il y a l'anglophilie, il y a le mouvement revendicatif. Traditionnellement, on est dans une terre de revendications ici, hein. Revendications politiques, mais aussi purement et simplement par patriotisme. Parce que quand je vais dire qu'il y a eu 100 000 mineurs qui ont manifesté, il n'y avait pas 100 000 communistes, nous sommes bien d'accord. C'est parce que ce mouvement de pensée avait été suivi par d'autres gaullistes, chrétiens, etc., qui avaient suivi ce mouvement. Alors, cette grève se déclenche le 27 mai à l'appel de Michel Brûlé, de Georges Dereux et de Waterloo, etc., et d'autres, à la fosse 7 de la Compagnie des Mines de Dourges, au puits dit le puits Dahomey à Montigny-en-Goële. Hein, suite encore à une mesure qui avait été prise pour payer en équipe les mineurs, certains mineurs risquaient de perdre une partie de revendication, la grève va se déclencher. Alors, à partir de là, elle a déjà été amorcée, puisque le 1er mai, il y a déjà des cahiers de revendications à l'instigation du Parti communiste clandestin qui ont circulé. On a sorti des drapeaux bleu-blanc-rouge, on a sorti aussi des drapeaux rouges. Manifestement, ce mois de mai sera le printemps des mineurs, si je puis dire. Et à partir de cette grève qui se déclenche le 27 mai, la grève va gagner au Stricourt, Courrières, etc. Et le maximum sera atteint le 4 juin, quand il y aura 100 000 mineurs en grève. Ce n'est plus donc une grève proprement revendicative. Ça devenait, aux yeux des Allemands, une grève patriotique, puisqu'ils ne vont pas s'y tromper. Les premières arrestations vont tomber. Alors, chose particulière à cette grève, c'est que les mineurs, et ne pouvant plus se rendre dans les puits, puisqu'ils sont surveillés par les Allemands, les femmes de mineurs vont prendre la relève. Et les femmes jouent un très très grand rôle. D'abord, elles le jouaient parce qu'elles manifestaient déjà pour le ravitaillement. Mais de surcroît, là, elles vont organiser des marches vers les grands bureaux. Et en particulier, une marche vers les grands bureaux de Billy Montigny, entraînée depuis Arne, depuis Hénin-Liétard. On disait Hénin-Liétard à l'époque et non pas Hénin-Beaumont. Eh bien, Hénin-Liétard vont marcher sur ces grands bureaux. Et là, ces femmes vont se heurter à la fête gendarmerie. Et ils vont, comment dirais-je, brutaliser ces femmes, voire les déplacer à l'extérieur pour qu'elles ne soient plus dans ce fameux boulevard des grands bureaux de Billy Montigny. Les Allemands ne s'y sont plus trompés. C'est-à-dire qu'en fait, au grand bureau des mines de Lens, il va y avoir un état-major. Le général Niehoff, qui dirige l'Oberfeldkommandantur de Lille, a déjà placardé des affiches bilingues pour inviter les mineurs à reprendre le travail. Il a déjà fait aussi arrêter 11 mineurs. Et ensuite, les carreaux de fosse vont être encadrés par les soldats allemands de manière à empêcher effectivement le mouvement de continuer à s'étendre et être sous contrôle. Conséquence logique, des mineurs vont être arrêtés. Et parmi ces mineurs, eh bien 244 d'entre eux vont être déportés à Sachsenhausen. C'est le premier convoi professionnel déporté de France. La déportation n'est pas le seul martyrologe de ces mineurs. Il y a eu effectivement beaucoup de fusillés par la suite. Quant aux femmes, on cite toujours, d'ailleurs à juste titre, une des femmes qui avait mené le mouvement des grands bureaux, Emilienne Maupty, puisqu'elle sera décapitée au pied de la cathédrale de Cologne.
Alors donc, une marche Emilienne Maupty aura lieu le dimanche 3 juin au puits Dahomey de Montigny-en-Goële. Et demain, une commémoration du début de la grève de 1941 aura lieu au puits Dahomey, donc au même endroit, c'est à 10h30. C'était Hénin-Beaumont, front contre front, reportage Antoine Chao et Charlotte Perry, avec les mineurs de la grève de 1941 et sur le marché d'Hénin-Beaumont. Merci à Marcel, Serge Barois, merci aussi à Alain Durand, merci à tous. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas, si j'y suis, sur le site là-bas.org également, ainsi que sur notre page Facebook où vous pourrez nous rejoindre. La technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Michel Thomas. Bertrand Chometon et Franck Adéret ont réalisé cette émission, assistée de Marina Touyez. Et Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Dis donc, t'as la santé, toi?
Oui, depuis que je suis à la Matmut.
On peut dire que t'es prévoyant.
Pour ça, c'est surtout la Matmut qui s'en occupe.
Ah, comment ça?
Pour la santé et la prévoyance, c'est la Matmut qui m'assure.
Ça, c'est sûr, la Matmut, elle assure.
Allez, allez,
hop, 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 hop.
Votre métier, c'est de faire de délicieux croissants, de coiffer ses dames ou de créer de jolis bouquets. Le nôtre, c'est de vous proposer les meilleures solutions en matière d'énergie.
Votre conseiller EDF Pro vous aide à réaliser des économies d'énergie. Plus d'informations au 0810 333 776 et sur edfpro.fr. Prix d'un appel local, hors surcoût éventuel selon l'opérateur. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Radio France, partenaire du Parc de la Villette, présente Philippe Decoufflet et sa compagnie DCA du 6 juin au 15 juillet. Une exposition ludique, Opticon, un nouveau spectacle, Panorama et la reprise de son solo. Un projet exceptionnel pour entrer dans l'imagination débordante de l'artiste. Philippe Decoufflet, du 6 juin au 15 juillet, à la Villette à Paris, en partenariat avec Radio France.
France Inter, partenaire de la 6e édition des Assises internationales du roman, du 28 mai au 3 juin à Lyon, organisée par Le Monde et La Villa Gilet. Pensez pour mieux rêver. Des écrivains, des débats, des lectures, toute la littérature du monde s'invite à Lyon pendant 7 jours. Et retrouvez Service public de Guillaume Erner en direct et en public des subsistances à Lyon le 31 mai à partir de 10h. Renseignements sur franceinter.fr.
France Inter présente Vers les lueurs de Dominique A. Le chanteur revient avec 13 nouveaux titres lumineux.
Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau.
Dominique A en tournée dans toute la France et le 20 juin au Casino de Paris.
Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons caché.
Retrouvez Dominique A dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr.
À demain, 15h, sur France Inter, pour la basse, j'y suis. Je vous souhaite une belle soirée. Et je vous laisse pour les infos avec Delphine Simons.
L'affaire de l'Erika, la Cour de cassation rendra sa décision le 25 septembre. Elle examinait ce matin notamment le pourvoi de Total contre sa condamnation pour le naufrage du pétrolier en 1999. Pour les avocats de Total, la loi française n'était à l'époque pas conforme aux conventions internationales. Même chose pour l'avocat général. Il précise aussi que les textes internationaux portent sur des rejets d'hydrocarbures et non sur des pollutions. Pour les parties civiles, on joue sur les mots. Écoutez, Loïc Lemeur, le maire de Pleumeur, l'une des communes sinistrées par la marée noire, il espère que la Cour de cassation fera preuve de logique.
Comment voulez-vous faire comprendre qu'il y a une différence entre le rejet et la pollution? Dès qu'il y a rejet, il y a pollution. Et là, il a fait une différence sur ce point. Comment expliquer à un pêcheur en mer que la pollution rejetée, enfin le produit rejeté par le navire n'est pas tout de suite une pollution? Bon, vous imaginez, et en plus de dire pour l'avocat général que depuis l'Erika, le droit a évolué et qu'aujourd'hui, ces pourvois seraient rejetés. Et d'arriver à dire à la fin l'inverse de ce qu'il a dit au début. Donc il y a des choses effectivement un peu incompréhensibles. Donc je pense qu'il ne faut quand même pas oublier que le droit gouverne les hommes. Donc il y a d'abord de l'humain. Et c'est sur ce point, je pense, que l'on peut gagner.
Le maire de Pleumeur répondait à Anne-Laure Barral. Très attendu en quelques semaines des grandes vacances, les pavillons bleus ont été décernés ce matin. 136 communes, 377 plages, récompensées pour la qualité de leurs eaux de baignade et leurs efforts pour respecter l'environnement, avec 15 nouveaux lauréats, dont 8 sur la façade atlantique et la Manche. Un record historique depuis le lancement de ce classement en 1985. Moody's maintient son triple A pour la France, mais l'agence de notation se donne quelques mois pour évaluer la politique économique du gouvernement. Pour Moody's, François Hollande a montré sa détermination à relancer l'économie, mais le chemin pour y parvenir reste incertain. La communauté urbaine de Marseille annonce la préemption du site de Fralib à Gémenos, seul site en France à produire les thés Lipton et les tisanes éléphants. Unilever a annoncé sa fermeture. Il veut délocaliser vers d'autres sites en Europe plus rentables. Les salariés souhaitent reprendre à leur compte l'activité. Le juge des référés a ordonné leur expulsion à compter du 1er juin. Demain, le ministre du redressement productif est attendu à Marseille. Il devrait les rencontrer. Arnaud Montebourg qui dit regretter ses propos sur les ancien patron de Cifrance, qu'il avait traité d'escroc en septembre 2011. Il a été condamné hier pour injure à 1 euro de dommages et intérêts. Les législatives, elles ont déjà commencé depuis hier sur Internet pour les Français de l'étranger. Plus d'un million d'électeurs résidant hors de France qui vont désigner pour la première fois 11 députés. 700 000 d'entre eux, ceux qui ont fourni aux autorités leur adresse mail, peuvent en théorie voter par Internet au lieu de se rendre dans l'un des bureaux de vote ouverts les 2 et 3 juin. Un système qui connaît un grand nombre de ratés techniques. Par exemple, si l'ordinateur est équipé de la dernière version du langage Java, publiée il y a quelques jours à peine, mieux vaut donc se connecter sur un autre ordinateur. Le parti pirate a créé un site spécialement dédié aux plaintes des électeurs qui rencontrent des difficultés sur Internet. Plus de 700 personnes interpellées à Montréal hier soir lors des manifestations d'hier. Les étudiants québécois contestent depuis 3 mois la hausse des droits universitaires. Le bilan des manifestations d'hier a été revu à la hausse. Plus de 50 millions d'Égyptiens appelés aux urnes. Ils choisissent leur président entre 12 candidats. Premier scrutin présidentiel depuis la chute d'Hosni Moubarak. Le premier tour s'achève ce soir et les bureaux de vote vont fermer une heure plus tard que prévu. Hier, pour la première journée de vote, la participation avait connu une très nette augmentation en fin de journée lorsque la chaleur était retombée.
Quand la musique donne, Didier Varro.
Rock, musique électro, techno,
chanson, rap.
La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
Quand la musique donne, les styles se croisent, se rencontrent et s'interpellent. Étienne de Crécy et le groupe C2C, deux générations, nés sous l'arc des platines et de la mythologie des DJ, confrontent leur philosophie de la culture club.
Quand la musique donne, demain sur France Inter, à partir de 16h. France Inter. La différence.
Pour l'heure 16h05, excellent après-midi sur France Inter avec Frédéric Ledéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Delphine Simon. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. On peut être assez révolté, assez vindicatif de tempérament, et puis être quand même prudent et penser à sa carrière. On peut voir ça comme ça quand on considère la dédicace que Beethoven a donnée. Il a dédié une sonate très jolie et très vivante et très chaleureuse à Antonio Salieri. Salieri, le rival de Mozart, on sait bien, depuis le film de Forman Amadeus. Salieri, qu'on a chargé outre mesure d'ailleurs, qui n'était pas si méchant que ça, qui avait un talent certes assez moyen, qui a certainement été jaloux aussi de Mozart, c'était absolument avéré. Mais enfin quand même, c'est un monsieur qui a fait jouer, malgré son sentiment de jalousie, des symphonies de Mozart. Il les a dirigées lui-même. Alors bon, il ne faut pas être trop excessif, je pense. Et il faut constater que Beethoven a écrit et a donné ses premiers jets pour violon et piano à ce grand maître, demandant par là sa protection. On peut l'imaginer en tout cas. Voici le rondo allegro de la première sonate pour violon et piano de Beethoven, interprété par Arthur Grumio, extraordinaire violoniste belge, qui était un petit peu obsédé de la pureté sonore. Il était vraiment toujours en train de bricoler son violon magnifique de Guarnerius. Il n'en dormait pas la nuit, il trouvait que la sonorité avait bougé, s'il faisait un peu plus humide, s'il faisait un peu plus venteux, etc., etc. Bref, il passait son temps à traumatiser les luthiers. Et puis Clara Askill, pianiste superbe, mais qui a beaucoup souffert de maladies, de scoliose, scoliose notamment, qui restait sur une planche couchée pendant 2 ans pour essayer de redresser son pauvre dos. Mais les deux ont formé un groupe absolument miraculeux, et aussi bien leurs sonates de Mozart que leurs sonates de Beethoven sont vraiment incontournables. Rondeau.